RMC, Intégral Foot, Roland Courbis, Arnaud Souk.
17h05, vous êtes bien dans l'Intégral Foot sur RMC, toujours avec le coach. Bon, coach, on va se poser quand même une question. Oui. Quart de finale de l'Euro, on nous avait promis les demi à minima, voire même la victoire. L'Euro féminin, je parle, hein, les Françaises qui ont perdu hier 1-0 face aux Anglaises, mais quelle déception.
Ben, disons que c'est pas seulement le résultat, c'est que depuis le début, et on dit chaque fois la même chose, on est déçu par la prestation, par les prestations. Donc il y a eu déjà ce miracle à 10 contre 11 dans le troisième match de poule. On a parlé de déclic. Moi, le premier, j'espérais que ça serve de déclic. Et puis hier, on a encore vu une équipe de France moyenne, voire je dirais même très moyenne. Quand on dit moyen, c'est avec une certaine élégance.
Alors, on va y venir plus en détail. On vous attend sur le hashtag RMC Live et au 32-16 pour débriefer cette performance de l'équipe de France. Et on est avec Anthony Reich qui est revenu tout juste des Pays-Bas. Salut Anthony.
Salut Arnaud, salut coach.
Qui était donc l'envoyé spécial de RMC aux Pays-Bas, au plus près de cette équipe de France. On peut véritablement parler d'un fiasco.
Ah oui, clairement, c'est un sacré échec cet Euro 2017 aux Pays-Bas pour l'équipe de France. On avait une génération douée, mais qui n'a jamais réussi dans les grands rendez-vous, dans les gros matchs. À part cette réaction face à la Suisse lors de ce troisième match de poule à 10 contre 11, ouais, où elles ont été éliminées pendant une heure. Mais finalement, est-ce que cette réaction n'allait pas atténuer parce que c'était la Suisse? Et parce que face à une grande nation comme l'Angleterre, qui est le nouvel épouvantail avec l'élimination de l'Allemagne hier de cet Euro, les Françaises n'ont pas eu de solution. Elles ont été brouillonnes offensivement, à la dérive défensivement. Ça a été trop compliqué cet Euro.
Brouillonne, même incohérente, coach, en attaque. Quand on voit le trio hier, Le Sommer, Deli et Diani, c'était n'importe quoi.
Disons qu'on peut pas dire qu'elles sont vraiment très dangereuses. Et là, on attendait toujours le match d'après. Et le match d'après, il n'est pas venu. Là, maintenant, il y en a plus de matchs après. Alors, l'Allemagne est éliminée en quart, mais les matchs de l'Allemagne, le niveau de l'Allemagne n'avait rien à voir avec celui de l'équipe de France. L'équipe d'Allemagne faisait peur. Après, ils ont été éliminés et ses adversaires ont créé une belle surprise, mais c'est difficile de comparer l'équipe de France avec l'équipe d'Allemagne. Oui, ils ont été éliminés les deux en quart de finale, mais pas avec les mêmes prestations.
Oui, c'est sûr, le niveau a été différent, coach. Après, ça reste les deux, sur le papier, les deux meilleures nations d'Europe. Donc évidemment, t'es obligé sur le papier de les comparer. Le problème, c'est que l'équipe de France a fait certainement la plus mauvaise compétition internationale depuis des années.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'amuser entre guillemets à regarder les deux demi-finales. Et dans nos commentaires, on essaiera de voir et de faire la comparaison avec le jeu de ces quatre équipes que l'on va voir en demi-finale.
Donc en l'occurrence, Pays-Bas face à Angleterre et Espagne face à Autriche.
Voilà. Et là, on fera les comparaisons avec le jeu de notre équipe de France. J'ai bien peur qu'on trouve le niveau de ces quatre équipes au-dessus d'une autre.
Danemark face à Autriche et pas Espagne, puisque l'Autriche a sorti l'Espagne. On avait parlé de soi-disant de force mentale, Anthony, dans cette équipe de France. Pardon, mais là on a l'impression que le mental, justement, il a été plus bas que zéro, quoi.
Je vais retenir une phrase de Camille Abili lors de la conférence de presse de veille de match face à l'Angleterre. Elle disait que les Anglaises semblaient trop confiantes et que ça allait se voir sur le terrain, mais en fait le camouflet, il est peut-être du côté des Bleus, parce qu'il y a eu aucune réaction mentale, aucune réaction collective hier soir. Certaines joueuses en zone mixte nous ont quand même dit qu'elles avaient bien joué. Là il y a eu un manque de lucidité totale.
Aucune action collective, parce que tu parles de réaction. Alors moi quand même, je me tourne vers toi, coach, je me pose quand même la question de savoir pourquoi il faut attendre justement que les Françaises encaissent un but, sachant que on le sait, ce sont des filles qui savent jouer au foot, on voit les matchs en club, on voit les matchs de cette équipe de France aussi en match amicaux. Pourquoi attendre la 61e minute ou l'heure de jeu et ce but encaissé par la gardienne française pour se mettre enfin à jouer et avoir un semblant de situation offensive? Ça c'est quand même assez surréaliste.
Je soulignerai un semblant, parce que il n'y a pas eu non plus une métamorphose.
Non, mais t'as eu deux, trois occasions que tu n'avais pas eu avant. T'as eu deux, trois mouvements vers l'avant que tu n'avais absolument pas eu avant.
Oui, mais parce que l'Angleterre était super bas. Elle contrôlait la partie, les Anglaises. Le bloc est redescendu énormément au niveau de la surface de réparation. Donc évidemment, il y avait de l'espace pour les Bleus. Et là, il y avait un tout petit peu de jeu, mais c'était vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup trop faible.
Non, moi je te dis sincèrement, c'est pas la première fois qu'on le dit, même après le premier match, rappelle-toi de nos commentaires, je m'attendais à mieux. Après j'ai dit, bon allez, ça va, c'est un premier match. Oui, après le premier, ça vient le deuxième. C'est un deuxième match, mais on a jamais vu une bonne mi-temps. Oui. On parle de match, même pas une bonne mi-temps on a vu. Et ça, c'est ça le plus décevant, hormis évidemment l'élimination, bien sûr.
Tiens, il y avait un objectif qui avait été fixé, faut le dire et le rappeler par la Fédération française de football et par son président, c'était justement Noël Le Graët d'être en demi-finale. Ben, l'objectif, il n'est pas atteint. Qu'est-ce qu'il en pense, Noël Le Graët?
Oui, un petit peu. Le tournoi n'a pas été extraordinaire. On n'a pas dominé notre sujet, même sur la poule de Canif. Bon, sur le dernier match, on fait pas un mauvais match contre les Anglaises, mais enfin, on a parlé techniquement à les dominer, et je pense que ça reflète un petit peu le niveau actuel. On est un peu moins bien, les équipes européennes ont progressé. Nous, on a besoin d'améliorer encore notre collectif.
Voilà, Noël Le Graët est évidemment très très déçu pour l'équipe de France féminine. On accueille Bruno, supporter de Bastia et de l'équipe de France féminine qui a fait le 32-16. Salut Bruno.
Salut Roland, salut toute l'équipe.
Salut Roland.
Ouais, je voulais parler de, effectivement, moi, quand je regarde techniquement, physiquement, au niveau individuel, les Françaises sont supérieures. Si on les prend individuellement, elles sont plus rapides, elles sont plus puissantes, elles sont plus techniques. Malgré tout, elles trouvent le moyen de perdre. Alors moi, si on me dit qu'après, ça vient pas du coach et ça vient pas des choix finis, je comprends plus rien. Je dis, parce que si jamais j'ai 11 joueurs individuellement qui sont meilleurs sur le terrain que les 11 autres, arriver à perdre, en sachant que les 3 premiers matchs au départ, ça a été 3 buts sur des coups de pied arrêtés, il y a quelque chose qui va pas, quoi.
Coach, justement, Olivier Chouafny, dont parle Bruno, notre auditeur, c'est le sélectionneur de l'équipe de France. Effectivement, Noël Le Graët, le président de la Fédération française de foot, a choisi de lui raccorder sa confiance. Bon, il y a rien non plus d'hyper choquant là-dedans, non ? Enfin, ça fait quand même pas longtemps qu'il est sélectionneur. À quoi ça rimerait à 2 ans du Mondial en France de le virer ?
C'était surtout difficile pour moi de faire autrement, puisqu'il y a déjà eu un changement de sélectionneur. Bon, avec des prestations moyennes, donc là, Échouafni, maintenant, ce qu'il y a de bien pour un futur très très proche, c'est que il fera l'analyse de ce qui n'a pas marché. Il connaît maintenant beaucoup mieux individuellement et collectivement le potentiel de cette équipe et les différentes formules qu'il faudra mettre à l'avenir pour pouvoir s'améliorer. Donc changer encore Échouafni après aussi peu de temps à la tête de cette équipe de France, oui, on pouvait s'y attendre, mais j'aurais été quand même surpris. Donc c'est pour ça que le fait de le maintenir ne me surprend pas une seconde.
C'est toujours, Anthony, toi qui suis le foot féminin, l'équipe de France féminine depuis de nombreuses années, il y a toujours une polémique autour du sélectionneur de l'équipe de France, beaucoup plus que chez les garçons, même déjà si chez les garçons c'est le cas, mais chez les filles c'est encore plus le cas.
Oui, c'est vrai que le sélectionneur a créé par le passé beaucoup, beaucoup de discussions et de polémiques, parce que à chaque fois, aucun des sélectionneurs n'a réussi à faire passer le pas à cette équipe de France, que cela soit Bruno Bini, qui a été le premier sélectionneur à faire passer un cap quand même à l'équipe de France et ses premières performances intéressantes en 2011. Ensuite, Philippe Bergerot, bah, il n'y a eu aucun progrès. Et puis, on a l'impression que sur une grande compétition, avec Olivier Chouafny, l'équipe de France a régressé sur cet euro-là.
Tiens, je me retourne vers Bruno, supporter de cette équipe de France féminine. Comment toi, tu le vois cet échec? Comment tu le perçois, cet échec pour les Bleus?
Bah, exactement ce qui m'a dit là, régression. Moi, je trouve que ça n'a pas progressé, je trouve que ça a régressé. Donc, c'est pour ça que je parlais de l'implication forcément à un moment ou à un autre du coach dans tout ça. Parce que à partir du moment où on ne progresse pas, on l'a pris pour progresser. Les résultats n'étaient pas là. En quart de finale de toute compétition, de grande compétition, pratiquement, ils sont éliminés. Là, on s'aperçoit que non seulement elle passe pas le quart, mais très sincèrement, les matchs qu'il y a eu auparavant, Mais c'est une catastrophe. Moi, j'ai pas vu d'amélioration dans le jeu. J'ai plus aucun plaisir. Auparavant, je prenais du plaisir à les voir jouer. Là, j'ai pas pris de plaisir à les voir jouer du tout. Aucun. Donc, quelque chose qui va pas.
Et puis ce qui est le plus inquiétant, moi je trouve, c'est le discours d'Olivier Chouafny. Il manque clairement de lucidité après la rencontre hier soir, en reprochant aux adversaires leur mauvaise qualité de jeu, alors que c'est l'équipe de France qui a mal joué. Elles n'ont pas su contourner ces blocs bas qui ont très bien joué, puisque l'Autriche est en demi-finale, donc ça veut dire que l'Autriche est meilleure que la France sur cette compétition. Et puis il surprotège ses joueuses. Il y a un moment quand tu es sélectionneur,
surtout, il est gonflé. Il faut quand même se souvenir qu'il a comparé l'équipe de France au Portugal de l'Euro masculin l'année dernière. Quand on se souvient les premiers matchs du Portugal, c'est quand même d'être exceptionnel.
Non, mais justement, c'est justement dans la comparaison qu'il a pu faire, c'était de nous dire que pratiquement il n'y avait que le résultat qui comptait, exemple le Portugal. Alors c'est vrai qu'on l'entend toujours cette formule, à savoir, bon, je préfère gagner en mal jouant que perdre en bien jouant. Évidemment, la palisse pourrait ressusciter. Mais ce qu'il faudrait peut-être savoir, au lieu de ressembler à la palisse, c'est qu'en bien jouant, on augmente quand même les chances de gagner.
Ça c'est sûr. On remercie Bruno d'avoir fait le 32-16.
Donc, tu veux dire que j'étais la palisse.
Un petit peu. Je ne sais pas comment rebondir, coach. Je sais en tout cas qu'on va accueillir Léo, supporter de l'OM et de l'équipe de France féminine. Salut Léo.
Oui, bonjour.
Ouais, salut, mais c'est quoi? C'est du vent qu'il y a derrière toi ou quoi?
Ouais, j'ai pas pu m'arrêter, je suis encore sur la voie rapide à Dijon. Oh.
Ah bah attendez, bon, on va te reprendre dans un instant alors Léo, on va te reprendre dans un instant, on va peut-être s'arrêter.
Elle a l'air très rapide.
Elle a l'air très 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 rapide, on te reprend dans un instant Léo. Coach, je voulais revenir avec toi sur l'un des thèmes que je voulais aborder par rapport à cette équipe de France féminine, même si on l'a dit déjà en filigrane, mais pourquoi cet échec? Pourquoi encore un échec? On rappelle, 2011, Mondial 2011, l'équipe de France qui fait là aussi figure d'équipe en tout cas plutôt intéressante, échoue à la quatrième place. Il y a eu les JO de Londres, il y a eu les JO de Rio, il y a eu des quarts de finale aux deux précédents Euros, encore une fois quart de finale. Cette équipe qu'on prétend être une équipe capable de se dresser sur un podium international n'y arrive pas. C'est quoi le problème?
Ben c'est vrai que c'est compliqué pour te donner une réponse, parce que si tu vois ce qui se passe dans les clubs, que ce soit Lyon, Paris Saint-Germain, oui, c'est les deux grosses équipes, mais il y a Montpellier qui est pas mal aussi, donc on voit quand même, là, des équipes costauds, solides, avec de la complicité, avec du jeu, avec une certaine cohérence, avec de l'animation. Et on n'arrive pas à retrouver, quel que soit le sélectionneur, on n'arrive pas à retrouver ça en équipe de France. Donc, arriver à avoir, par exemple, cette équipe de Lyon, qui quand même domine le sujet.
4 Ligues des Champions.
Ben oui, et ben, quand on voit l'équipe de France, presque celui qui n'est pas au courant, on se dit, non mais attends, ça c'est pas l'équipe du pays où il y a Lyon et Paris Saint-Germain, ça. Eh ben on lui répond, eh ben oui.
Anthony.
Mais justement, coach, faut préciser aussi que par rapport à Lyon, parce que c'est l'éternel débat, l'Olympique Lyonnais qui domine la scène européenne, mais dans cet Olympique Lyonnais qui a gagné 4 Ligues des Champions, en attaque, tu as eu Lotta Schelin, une énorme attaquante et brillante attaquante suédoise. Oui. Là, tu as Ada Egerberg, la norvégienne, qui est juste un phénomène. Évidemment, il y a Eugénie Le Sommer, évidemment, il y a Camille Abili, mais elles ne sont pas toutes seules dans cette équipe. Et il y a une émulation dans cet Olympique Lyonnais qui a été lancée par Jean-Michel Aulas, qui n'existe mais alors pas du tout ou trop peu en équipe de France.
Nous avons donc les mêmes problèmes que notre équipe de rugby.
Anthony, est-ce qu'il y a du règlement de compte dans l'air? On se souvient qu'en début d'Euro, on avait dit Olivier Chouafny aussi a su fédérer un petit peu tout le monde. Il y a le clan des Parisiennes, il y a le clan des Lyonnaises, etc. Le sélectionneur a réussi à fédérer tout ça. Est-ce que là, quand même, il risque pas d'y avoir aussi une petite explosion? Parce que là, pour le coup...
Ce qui est sûr, c'est qu'il y en a qui vont arrêter. A priori, Laura Georges,
Camille Abili, c'est sûr.
Camille Abili l'a dit hier soir. Laura Georges et Elise Buscaglia devraient lui emboîter le pas.
Gaëtan Tiné aussi.
Gaëtan Tiné, on ne sait pas encore, mais ça pourrait être possible aussi. Donc déjà, il va y avoir un renouvellement quand même s'il ne sera pas majoritaire au sein de l'équipe de France. Et puis, il va falloir aussi faire le débriefing de cette compétition. Les joueuses me l'ont dit hier soir, elles vont en discuter, mais il faut se projeter vers l'avenir et cette Coupe du Monde dans 2019 en France.
Ah, tiens, on retrouve Léo qui a fait le 32-16, je crois qu'il a pu s'arrêter.
Ça y est, je me suis arrêté.
Dis-moi tout, Léo.
Oui, bon, pour en revenir sur ce que disait la personne juste avant,
Anthony.
Effectivement, il y en a, voilà, c'est ça.
Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont s'arrêter, hein, tout ce qui est Lise Bussiaglia et tout. Et la relève, je suis un peu inquiet. Hein. La Piotr Cherkaoui hier soir sur le côté gauche a été dépassée du début jusqu'à la fin. Alors, on aurait dit Patrice Evra, le grand copain Roland, mais je l'ai senti dépassé complet. Toujours trop devant, trop derrière.
Ah, c'est pas gentil pour Patrice.
Comment ?
C'est pas gentil pour Patrice, dit le coach.
Non mais bon, je sais pas ce que tu en penses, coach. Voilà, la piote, elle était dépassée complète, quoi. Après, je me rappelle plus, les deux petites blagues qui sont en attaque, c'est Diani, c'est ça ?
Notamment, oui.
Et puis il y en a une qui jouait juste derrière. Non, sur le côté de
Grâce Gaillon.
Voilà, c'est ça. Ben, je les trouve vraiment pas au niveau, quoi. Moi, je suis très inquiet pour la relève de l'équipe de France. À l'époque des Corinne Franco et tout ça, des Louise Anessib, je trouvais ça jouait, c'était beaucoup plus fluide et tout ça. Maintenant, je suis un fervent supporter de l'équipe de France. J'adorais regarder le foot féminin. J'ai encouragé mes voisins à regarder et tout ça. Maintenant, voilà.
Ah, c'est vrai que c'est un paradoxe, hein, dans cet euro. On a eu des audiences records avec des matchs à pas loin de 4 millions. Et au final, c'est là où elle joue le moins bien. Coach.
Non, mais c'est vrai que j'ai le souvenir de certains matchs, notamment dans les Jeux Olympiques, sur ces dernières années. D'ailleurs, j'ai été agréablement surpris par les progrès qu'ont pu faire les femmes dans ce football où au départ, je pensais pas du tout que ça pouvait être un sport féminin. Et notamment, évidemment, il y a l'Allemagne, mais cette équipe des États-Unis, je la trouvais fabuleuse. Là, quand je vois le niveau des matchs de notre équipe de France, je vois vraiment plus les matchs que j'ai dans la tête qui me faisaient dire que le football féminin progressait dans toutes les équipes.
C'est vraiment le sentiment général, coach. On remercie Léo d'avoir fait le 32-16. Il soulevait un problème intéressant, Léo. Enfin, en tout cas, une question intéressante. C'est celle de la relève, Anthony, parce que maintenant il y a le Mondial 2019 qui sera organisé en France. Est-ce que l'équipe de France, avec toutes les joueuses qui vont partir à la retraite, elle sera toujours aussi forte? Enfin, en tout cas, on espère au moins plus forte que ce qu'elle semblait nous proposer ces jours-ci.
Ce qui est sûr, c'est que il y a de la relève. Il n'y a pas 50 joueuses de niveau international, mais il va falloir s'appuyer sur ces joueuses championnes d'Europe U19 l'été dernier, vice-championnes du monde U20 à l'automne, pour construire sur 2 ans. Vous avez une Marie-Antoinette Katoto, l'attaquante du PSG, qui a été blessée cette saison. Delphine Cascarino, le petit bijou lyonnais, l'ailier supersonique, qui pourra aussi venir en aide à cette équipe de France. Il y a 2-3 autres joueuses qui peuvent arriver et qui peuvent prendre en expérience sur ces 2 années. C'est sûr qu'on n'aura pas une nouvelle équipe de France, on ne pourra pas faire table rase, mais il y a de quoi construire quand même.
Coach, là, tu repars à zéro concrètement, ou il y a quand même des bases?
Non, c'est impossible. Il faut quand même garder quelques bases, je dirais, ce qu'on appelle la traditionnelle ossature, mais après, voir un petit peu différentes formules, parce que là, c'est pas seulement une impression. Quand nous avions le ballon, entre la complicité et les déplacements, Et l'objectif d'être dangereuse, on mettait rarement en danger nos adversaires. C'est ça qui m'a le plus déçu. On met évidemment l'élimination ou les défaites ou les non-victoires plutôt. Mais je voyais aucune construction, je dirais, digne de ce nom.
Allez, on accueille Nicolas qui a fait le 32-16 pour clore ce chapitre équipe de France féminine. Salut Nicolas.
Bonjour à tout le monde.
Salut Nicolas.
Bonjour.
Bon, quel est le problème selon toi ?
Le problème, c'est que il y a un point sur lequel j'appelais en premier, mais que j'aimerais soulever, c'est les gros déchets techniques de l'équipe de France. En dehors des phases de jeu, qui certes n'y sont pas trop, mais déjà s'il y a trop de déchets, obligatoirement, on peut pas construire. Alors là où j'étais pas trop d'accord avec coach, si je peux me permettre, c'est on a eu quand même mi-temps, puisque tout à l'heure il disait qu'il n'y avait pas de mi-temps intéressante de l'équipe de France dans l'Euro. J'ai trouvé une seconde mi-temps contre l'Islande qui était pas trop mal, assez intéressante, mais encore une fois trop touchée par le déchet technique, celui de...
On te capte très très mal, Nicolas. Est-ce que tu peux te mettre plus près de la fenêtre? Je sais pas.
Est-ce que vous m'entendez mieux là?
Ouais, là on t'entend. Vas-y, continue.
Non, je...
Ouais, je disais, donc par rapport à la deuxième mi-temps de l'Islande, la deuxième mi-temps de la Suisse, qui a aussi été intéressante, mais encore une fois, trop gâchée par des erreurs techniques. Mmh. Donc, moi, j'ai envie d'être optimiste, et puis me dire que, bon, et, les générations qui vont arriver vont amener un peu de fraîcheur. Mmh. L'auditeur précédent disait que, notamment, la milieu, la numéro 23, Ngoyo.
Ngoyo.
Voilà, il disait qu'elle n'avait pas les qualités. Pourtant hier, elle a montré de sacrés talents techniques et physiques. Après, j'aimerais aussi soulever peut-être un peu le point sur la gardienne, quoi, parce que je trouve que hier soir, elle a été également fautive sur le but. Ou elle anticipe un petit peu l'angle fermé, quoi.
Bon, en tout cas, à minima, si elle n'est pas fautive sur le but, coach, c'est vrai qu'elle n'a pas livré un grand taureau, la gardienne. Hein.
Ouais, mais c'est vrai que sur ce but, c'est le genre de but, tu vois, c'est un petit peu comme Areola face à Sidibé, c'est le genre de but que tu peux pas incriminer à 100% le gardien, mais bon, tu trouves qu'elle a été facile à battre. Et un gardien ou une gardienne facile à battre, sans rentrer dans le domaine technique et d'expliquer le pourquoi du comment avec précision, tu vois ce tir, tu as l'impression que les buts de l'équipe de France sur ce tir, ils font 15 mètres de large et 10 mètres de haut.
Allez, juste un dernier mot avec Anthony, c'est quoi le programme là pour les Bleus, pour l'équipe de France féminine?
Alors, quelques jours de repos parce qu'il va y avoir ensuite la reprise avec les clubs qui a déjà commencé pour les non-internationales et puis ensuite on va repartir sur la D1 féminine et les premiers matchs amicaux mi-septembre, on verra ce qu'il se passera, ça sera intéressant à ce moment-là.
Très bien, merci Anthony pour toutes ces explications, toutes ces précisions. L'équipe de France donc féminine sortie, vous le savez, 1-0 en quart de finale de l'Euro hier par l'Angleterre. Dans un instant, tiens, on revient au football masculin, on va aller prendre des nouvelles tiers de l'Olympique Lyonnais qui était en match amical hier face à Montpellier. Un but partout, un homme dans le match, coach, un homme dans le match, Nabil Fekir. Doit-il devenir capitaine de l'Olympique Lyonnais? Tiens, moi je vous pose même la question sur le Twitter, sur le compte Twitter de RMC Sport. Peut-il retrouver l'équipe de France en vue du mondial? On en débat dans un instant sur RMC, 17h26.
RMC, Intégral Foot, Roland Courbis, Arnaud Souk.
17h28, vous êtes bien sur RMC, vous êtes bien dans l'intégral foot. Tiens, coach, c'est quoi la question qu'on pose à nos auditeurs et à nos tweetos sur le compte Twitter d'RMC Sport? Cette question, c'est Nabil Fekir peut-il retrouver l'équipe de France? Évidemment, elle n'est pas innocente. Doit-il même retrouver l'équipe de France? Elle n'est pas innocente, cette question, parce que Nabil Fekir, pour l'instant, il est quand même l'auteur d'une préparation avec l'Olympique Lyonnais plutôt sympathique. On avait quitté Nabil Fekir en délicatesse avec son genou. Il s'était gravement blessé, on le rappelle, en septembre, il y a deux ans, lors d'un match de l'équipe de France. Il a eu beaucoup de mal, il a mis beaucoup de temps à revenir, à se remettre de sa blessure. Ensuite, une fois qu'il s'est vraiment remis de sa blessure, ça a été un petit peu poussif, on va dire, sur les terrains. Il le reconnaît lui-même. Et sauf que là, pour le coup, il est affûté. Il est affûté, Nabil Fekir, et on l'a vu notamment hier soir dans ce match nul, ce match de préparation, match nul un partout contre Montpellier à 7.
Quand tu connais certains dictons, et ça me plaît de m'en servir, ne brûlons pas les étapes, au moins ne brûlons pas une étape. C'est-à-dire, l'un viendra avec l'autre, dans le sens que pour le moment, je dis bien pour le moment, sauf lors de cette préparation, je dirais pour le moment, nous n'avons pas encore retrouvé le Fekir d'avant sa blessure. Mmh. On n'en est pas loin. On les a déjà brûlées les étapes, où je me rappelle d'un Fekir sélectionné alors qu'il avait, je crois, retrouvé un niveau moyen. Donc là aussi,
sa grosse blessure, tu parles.
Ah ouais. Oui. Donc puisque si on se rappelle du Fekir justement, et c'est sûr que ce soit pour lui, pour Lyon, pour tout le monde, revoir ce Fekir irrésistible qui formait avec Lacazette un duo extraordinaire et avec Gourcuff un trio, ou avec Grenier un autre trio extraordinaire, voire irrésistible. La blessure de Fekir à cette époque-là a été très préjudiciable pour Lyon. Alors, déjà, qu'ils reviennent, et on en a l'exemple, tu viens de donner les dates, quand, lors d'une blessure au genou, et notamment les croisés, j'entends comme diagnostic 6 à 8 mois. Oui, 6 à 8 mois pour remettre une survette et aller trottiner, mais pour retrouver ton niveau vraiment à 100%, si, je dis bien si, tu le retrouves à 100%, et des fois tu ne le retrouves, on a l'exemple avec Falcao, oui, tu ne le retrouves qu'à 90, ça ne veut pas dire qu'à 90, tu ne peux pas être à nouveau un bon joueur, mais déjà, retrouvons le Fekir irrésistible, on n'en est pas loin. Mmh. Retrouvons-le dans les matchs à venir, et c'est une évidence, que ce soit pour lui, pour Lyon, ou pour notre équipe de France, que ce Fekir irrésistible que nous avons connu avant sa blessure, s'il revient, bah évidemment, ça sera une très bonne nouvelle pour l'équipe de France.
Ouais, bon, alors c'est la question qu'on vous pose, hein, sur le compte Twitter RMC Sport. Vous êtes 68% à nous dire que non, vous croyez pas du tout au retour de Nabil Fekir en équipe de France. Du reste, il a quand même fait un super match hier, il a marqué notamment, il a fait une super préparation. Est-ce que, à minima, sans parler de l'équipe de France, on sait que Nabil Fekir, c'est plutôt un homme discret, un garçon discret qui a pas une véritable vocation à devenir un meneur d'hommes. Est-ce qu'on peut l'imaginer capitaine dans cet effectif Olympique Lyonnais qui a perdu Corentin Tolisso, qui a perdu Maxime Gonalon, qui a perdu Alexandre Lacazette?
Si tu veux, là, tu me surprends dans le sens que c'est un petit peu ce que j'aurais fait. Dans le sens qu'à partir du moment où le capitaine est parti, Gonalon, je me serais servi du brassard un petit peu comme a pu faire Rudy Garcia avec Payet. Je me serais servi de ce brassard pour faire d'une pierre deux coups, pour déjà nommer un capitaine qui peut être justement décisif, et pas seulement dans le terrain, dans le vestiaire, dans les explications aux jeunes, et voir Fekir avec le brassard de capitaine aurait été pour moi une bonne idée aussi, parce que ça ne veut pas dire que la nomination de Marcelo est une connerie de Bruno. Il doit avoir ses raisons. Il pourra nous donner les explications quand on lui posera la question. Pour le moment, on peut être surpris que la dernière recrue qui arrive puisse être capitaine dans un vestiaire d'un nouveau club pour lui. Mais c'est pas interdit non plus, la preuve. Mais voir Fekir capitaine, ce qui aurait peut-être permis et ce qui l'aurait obligé à être un peu moins introverti et se libérer, et grâce à ce brassard monter d'un cran son comportement et ses performances, je pense que ça aurait pu être une bonne idée aussi.
Tu crois qu'il n'y a pas une histoire? On sait, hein, que les relations, elles étaient plutôt froides à un moment entre Bruno Genesio et Nabil Fekir. Tu crois que ça a pu influer
possible,
ça peut-être dans le choix?
Possible, ça, il y a des choses qu'on ne sait pas, mais on pourra poser la question à Bruno en lui disant: Bruno, on est surpris de la nomination du capitaine qui est la dernière recrue arrivée à Lyon. On peut quand même être surpris.
D'ailleurs, soi-disant, ça va mieux entre les deux hommes, entre Genesio et Fekir. On peut y croire à ça vraiment, enfin, quand on sait à quel point les relations ont été froides.
Justement, c'est sous moi de te couper. C'est justement extraordinaire, et ça aurait été extraordinaire pour la réconciliation. C'est-à-dire de dire: tiens, là, on fait passer un message au vestiaire, moi je te fais passer ce message-là, je te confie le brassard de capitaine, et je fais passer quand même comme un message, je donne le brassard de capitaine à un joueur qui à 100%, chose qui est pas loin d'être le cas, peut avec un coup de patte, une accélération, une passe, un dribble, changer tout simplement le film et la physionomie d'un match. Le Fekir avant sa blessure était tout simplement diabolique.
Mbappesque, presque.
Tout à fait le même style, mais décisif de la même façon, oui.
Allez, on accueille Jean-Marie, supporter de l'Olympique Lyonnais. Salut Jean-Marie.
Salut à tous.
Salut Jean-Marie.
Merci de me recevoir.
Bon, alors je sais pas à quelle question tu veux répondre. Est-ce que Fekir doit être capitaine de l'OL, ou est-ce que Fekir peut retrouver l'équipe de France? Tu peux répondre aux deux si tu veux.
Justement, c'est un peu les deux finalement. Je vais en venir direct au sujet. Je pense que l'équipe là de l'Olympique Lyonnais, elle a été chamboulée dans tous les sens, hein, cet été, en début d'été. On a quand même libérer les cadres, on a surtout, on va dire que Jean-Michel a pris pas mal de pognon, en parlant cash, et qu'aujourd'hui on a recruté pas mal de jeunes, beaucoup moins expérimentés que Fekir, à part Marcelo. Je pense qu'aujourd'hui on peut pas mettre quelqu'un comme Marcelo capitaine, parce que déjà il y a la barrière de la langue, pour commencer. C'est mon point de vue. Après, deuxièmement, parce qu'il n'a pas rien confirmé à Lyon, et puis qu'il vient d'arriver, et qu'à un moment donné, si on veut foutre un gros coup de bâton dans les vestiaires, vas-y, hein, mais Marcelo, hein. Et puis
non mais attends, je te coupe aussi, parce que là on n'a malheureusement pas la possibilité de poser la question à Genesio, dans le sens que même pour Marcelo, c'est un challenge difficile de devenir arrière central de Lyon, qui est le poste où il y a quand même eu pas mal de difficultés sur ces dernières saisons, quel que soit sur un plan individuel, que sur un plan collectif, les charnières, on a eu du mal à trouver la bonne ou les bonnes. Donc déjà, c'est déjà compliqué son challenge. Je dis qu'on lui complique un peu plus en lui donnant le brassard de capitaine. Mais là, il y a certainement quelque chose qui nous échappe. Je vais pas m'amuser, moi, à faire le professeur avec un collègue de profession. Et à la moindre occasion, on posera la question à Bruno par rapport à ce choix, s'il veut bien nous répondre.
Non, mais moi, de toute façon, la question est claire. Pour moi, c'est qu'à un moment donné, il fallait choisir entre Lopez et Fekir. Le problème, c'est que Lopez, c'est un gardien. C'est un peu comme Loris en équipe de France. Pour moi, c'est mon point de vue.
Tu sais ce que j'en pense.
Le gardien ne peut pas être capitaine.
Mais je suis d'accord avec toi depuis plus de 40 ans.
Le gardien, il peut être une clé dans le vestiaire. Ça n'en change en rien. Mais pas le capitaine.
Et pourquoi pas?
Aujourd'hui, c'est surpris, je pense.
Je suis surpris parce que, enfin, je dois t'avouer que très honnêtement, je m'étais jamais posé la question. Mais bon, enfin, on voit Hugo Lloris,
c'est pas interdit de mettre
je pense pas que Hugo Lloris soit mauvais capitaine, par exemple, à l'époque où il était capitaine de l'Olympique Lyonnais.
Mais justement,
c'est pas qu'il était mauvais capitaine.
On n'est pas en train de te dire ça. On est en train de te dire que le métier, parce que je dirais même pas que gardien c'est un poste, c'est un métier. Un métier totalement différent de tes coéquipiers. Tu as un entraîneur différent. Tu as une couleur de maillot différente. Tu as des règlements différents. Et tu as une concentration abominable qui est pour moi une concentration où on doit te laisser tranquille. Quand je vois, tu me dis que Loris n'a jamais fait un mauvais capitaine. On n'a jamais dit ça. Mais quand je vois, par exemple, Loris, la veille d'un match ou l'avant-veille d'un match, quand on sait que le poste de gardien de but, tu fais une connerie, tu peux te dire que tu la payes cash, derrière toi, il n'y a pas un coéquipier pour te la rattraper. Eh bien, concentrons-nous, laissons-le se concentrer. Quand je le vois en train de répondre à certaines questions, je souffre pour lui. Quand en plus de ça, les questions sont délicates sur la forme d'un coéquipier, sur ci, cela, je suis en train de, je regarde cette conférence en disant, mais laissez-le tranquille dans sa chambre, en train de se concentrer pour le match de demain ou pour le match d'après-demain. Voilà la vision que j'ai d'un gardien. D'accord. C'est quelqu'un de avec un poste qui est fragile, décisif, donc ne lui en demandons pas trop. Et en plus de ça, il ne fait pas le même métier que ses coéquipiers.
Je te redonne la parole, Jean-Marie, au 32-16.
Allô ?
Oui, vas-y, oui. Vas-y.
Mais globalement, tout simplement, moi je dirais juste que voilà, pour en arriver à l'équipe de France, à part je suis d'accord, il faut laisser encore au moins 6 mois, voire un an, voir qu'est-ce qu'il va donner sur du long terme. Aujourd'hui, le poste de capitaine, je pense qu'il faut lui donner. Après, j'aurais juste un petit message personnel à faire passer d'incompréhension d'un club que j'admire, que j'adore depuis des années. C'est Jean-Michel Aulas. Arrête de déconner. Là, on va vendre Mamana. On est en train de... On fait n'importe quoi. On fait beaucoup d'argent. Bah, tu fais beaucoup d'argent. Énormément d'argent. Le recrutement, c'est très bien. Je dis pas le contraire. Hein. Mariano Diaz, c'est très bien. Traoré, c'est très bien. Daypay, de l'avoir pris, c'était très très bien. Mais là, en défense, ce qu'on a pris, Marcelo, je pense que c'est très bien. Mais Mamana, c'était pas le moment de le vendre. Il fallait le garder. Je pense qu'il y avait moyen de faire quelque chose avec. Et je pense qu'aujourd'hui, le problème en défense, on va le retrouver encore en début de saison. On en reparlera. J'en suis convaincu. Et je pense qu'aujourd'hui, si on veut vraiment donner les clés à Genesio, soit il est en train de le planter lui-même, Jean-Michel Aulas, et après, il va mettre Juninho d'ici un an, à la fin de l'année, entraîneur. Je sais pas, hein, mais moi, s'il recrute pas en défense, là, il est en train de lui mettre une balle dans le pied. Et aujourd'hui, ça sert à rien de vendre pour 140 millions et de nous acheter pour 30 millions d'euros des joueurs. Et de dire qu'on va être les meilleurs d'Europe et les meilleurs de France. Non, arrêtons les conneries. Il y a la finale de la Coupe de l'UEFA, on va la regarder dans les gradins et ça fera 4 matchs que nous on jouera plus quoi.
Allez, merci Jean-Marie d'avoir donné ton avis au 32-16. On accueille Karim, un autre supporter de l'Olympique Lyonnais à 17h40 dans l'intégrale foot sur RMC. Salut Karim.
Salut, coach Courbis, salut tout le monde.
Salut Karim.
Dis-moi, le Fekir capitaine, enfin potentiellement capitaine, ou en tout cas on pose la possibilité. Qu'est-ce que ça t'inspire?
Eh ben, personnellement, Fekir capitaine, je sais pas s'il en est capable, s'il a le genre de personnalité à... Ah, c'est vrai que vous le disiez tout à l'heure qu'il était très très introverti, alors peut-être que le capitana, ça le pousserait justement un petit peu plus se libérer, comme vous en parliez juste avant. Mais personnellement, je suis pas sûr que ce soit vraiment sa place.
Ben, si tu veux, ça serait... Bon, alors, après, on n'en est pas sûr, mais ça serait peut-être un coup à tenter pour justement le booster et ne plus en faire... un wagon qui suit les locomotives ou la locomotive et en faire tout simplement lui la locomotive de cette équipe là et ça pourrait changer son comportement, ça pourrait changer sa vision des choses, ça pourrait changer sa communication et ça pourrait tout simplement lui faire passer un cap. C'est dans ce sens là après je te dis peut-être. Mais si évidemment tu le tentes pas, tu es sûr que là tu arriveras pas à le réussir.
En tout cas, merci Karim d'avoir fait le 32-16. En tout cas, ce qui est sûr, coach, c'est que Fekir, si on l'imagine pas capitaine, on l'imagine volontiers homme orchestre hein, de cette attaque de l'Olympique Lyonnais. Et on se dit, à la lumière de ce qu'on a vu, notamment avec Mariano Diaz hier et avec Memphis Depay, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal cette attaque lyonnaise. Hein. On parle beaucoup de Paris et de Monaco, mais là, franchement, on a aussi un trio offensif qui potentiellement peut nous apporter beaucoup.
Oui. Complètement, même un quatuor avec notamment Grenier qui est pour moi un joueur qui pour le moment passe à côté d'une énorme carrière. Elle est loin d'être finie, mais pour le moment c'est quand même pas terrible compte tenu de ses possibilités. Donc le problème pour Bruno, les latéraux sont quand même des latéraux très intéressants. La charnière centrale avec l'arrivée de Marcelo, ben il va falloir trouver le bon complément et Bruno va peut-être le trouver. Donc là, est-ce que Bruno arrivera à trouver le bon équilibre que toutes les équipes ont besoin dans cette préparation? C'est le grand point d'interrogation pour l'Olympique Lyonnais. Mais c'est vrai que quand tu regardes les 15 voire 16 meilleurs joueurs de Lyon, tu te dis qu'avec ça, il y a possibilité quand même de mettre une grosse équipe avec plusieurs formules. Et ces deux ou trois jeunes, très très jeunes, qui arrivent avec une marge de progression que l'on ne sait pas encore comment elle va se passer, cette marge de progression, mais elle existe. Au mois de novembre, décembre, voire janvier, il y aura peut-être un, voire deux joueurs sur ces trois jeunes joueurs talentueux qui auront tout simplement explosé comme a pu le faire Mbappé à Monaco.
Allez, on vous donne le résultat du sondage sur le Twitter de RMC Sport. Croyez-vous au retour de Nabil Fekir en équipe de France? Ben vous nous dites à 67% non. Vous aura pas beaucoup fait bouger. Vous avez été très très nombreux à voter. C'est la preuve quand même que ce joueur, même si on n'en parle plus beaucoup, il continue à nous intéresser. Dans un instant, coach, dans l'intégral foot sur RMC, on va parler de nos trois clubs européens de la semaine. Nice, l'Olympique de Marseille et les Girondins de Bordeaux. À tout de suite.
Le dernier flash info d'RMC est sur la nouvelle appli RMC. Téléchargez-la maintenant.
Coach.
Oui.
Tu avais un petit coup de gueule, je crois, à pousser justement, puisqu'on parlait de l'Olympique Lyonnais et de ce match nul, un but partout hier en amical face à Montpellier. Tu voulais apporter, je crois, une précision sur la teneur des mots, on va dire, entre amical, préparation.
Oui, d'accord, mais avant ça, excuse-moi, je vais te répondre à ta question. Qu'est-ce que c'est la question exacte qui a 67%, là, tu viens de dire, de non?
Croyez-vous au retour de Nabil Fekir en équipe de France?
Il y a 67%
et de plus de 5000 votants, coach. Je suis très étonné moi aussi, mais bon.
Alors on a peut-être mal posé la question. En cas de retour à 100% des qualités de Fekir, croyons-nous, on retourne à l'équipe de France.
En tout cas, moi tu vois, je vote oui. Hein. Franchement, moi j'y crois, on retourne Nabil Fekir et je le souhaite à l'équipe de France aussi.
Si on revient à 100%, bien évidemment. Pour en revenir à ce que tu me dis, oui, c'est depuis de longues années que déjà... Le terme de match amical pour moi n'a rien à voir. Parle-moi d'un match de préparation, puisqu'un match amical au niveau des blessures, il est peut-être encore plus dangereux qu'un match officiel parce que le joueur a envie de s'imposer à tout moment. Il y a même des joueurs qui jouent une partie du match et qui n'ont pas beaucoup de minutes pour se montrer sur leur bonjour au coach. Et ensuite, c'est très difficile à gérer pour un effectif aujourd'hui qui a augmenté sur ces dernières années, où tu as dans tous les clubs 25 à 30 joueurs. Bon, je pense que ce match de préparation devrait être justement non plus un match amical, mais un match avec certaines précisions, c'est-à-dire de faire trois tiers temps de 40 minutes pour pouvoir permettre aux deux effectifs de pouvoir faire jouer tous leurs joueurs, et celui qui aura joué le moins, mais il aura joué au moins 40 minutes, les troisièmes 40 minutes, et ensuite, que s'il y a un joueur expulsé, qu'on l'expulse, qu'il aille prendre la douche, mais qu'on le remplace par un autre.
Allez, on en reparle dans un instant sur RMC.
RMC, c'est au 32-16,
45 centimes la minute,
et au 7-32-16,
65 centimes par envoi, plus près du SMS.
RMC, Intégral Foot, Roland Courbis, Arnaud Souk.
C'est la dernière ligne droite à 17h48 sur RMC, la dernière ligne droite de l'Intégral Foot pour ce soir avec le coach. Et on débute cette semaine, coach, évidemment, on va en parler, on va y revenir en détail tous les jours. Mais on a des matchs européens qui nous concernent cette semaine. Tu sais qu'il y a les troisième tours retour de... les troisièmes tours préliminaires de Ligue des Champions et d'Europa League. On va commencer, si tu le veux bien, avec le match de Nice, du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Ce sera face à l'Ajax Amsterdam mercredi 20h45 à vivre sur RMC avec Georges Carino. Un but partout à l'aller, but de Balotelli. On s'en souvient, des Niçois qui s'étaient fait un petit peu surprendre alors qu'ils semblaient être dans le match. Et Balotelli, malheureusement, il est forfait. En tout cas, c'est ce que nous dit le club aujourd'hui.
Oui. Ben c'est vrai que bon, ça, c'est pas une bonne chose pour tous les efforts qu'a pu faire Mario pendant cette intersaison pour justement démontrer que les Niçois ont bien fait de maintenir leur confiance. Donc c'est un grand point d'interrogation, cette deuxième saison de Balotelli. Mais là, on aura le temps d'en reparler de la saison de Balotelli. C'est vrai que il sera absent pour ce match retour, mais avec Pléa et un milieu qui est quand même de qualité, qui sera obligatoirement renforcé. Je pense que Fabre aurait joué dans tous les cas qu'avec une seule pointe. Donc au lieu que ce soit Balotelli qui démarre le match, ça sera Pléa. Est-ce qu'il y a vraiment une énorme différence avec les déplacements de Pléa par rapport à ceux de Balotelli? C'est pour moi du 50-50.
Tout reste possible, selon toi, coach, après ce match nul, un but partout. C'est sûr, les Niçois vont pas partir favoris, mais tout reste possible.
Possible, oui.
Balotelli ou pas?
Possible, oui, mais très compliqué. J'apprends rien à personne, et surtout pas aux Niçois. Déjà, tu sais qu'au coup d'envoi, tu es éliminé, puisque tu as fait un partout au match aller, donc tu ne peux te qualifier qu'en marquant au moins un but. Est-ce que marquer un but, ça suffira pour se qualifier? Ben ça, on en sait rien, mais tu es sûr et certain qu'il faut au moins le marquer. Les Niçois sont quand même capables de marquer au moins un but en déplacement à l'Ajax. Et on sait très bien, même s'il y a eu quelques joueurs changés, l'ossature reste de 7 à 8 joueurs qui se connaissent bien, et ces joueurs niçois, si on regarde le championnat, je dis bien le championnat puisque dans les trois autres compétitions ils n'ont pas été bons, mais si on regarde le championnat de Nice de la saison dernière, c'était quand même très compliqué pour battre Nice.
C'est sûr. Juste rapidement, on va le faire avec chacun de nos trois clubs européens, avec Nice, Marseille et Bordeaux. Les conséquences selon toi d'une élimination niçoise, en tout cas du fait de pas passer ce tour?
Ben, disons que ça serait l'élimination, non pas de la Coupe d'Europe et de l'Europa League, ça serait l'élimination de la Champions League. Ce qui nous ferait remarquer, à nous qui commentons le championnat, que quand on parle avec beaucoup d'enthousiasme de la troisième place qualificative pour la Champions League, oui, qualificative, mais avec quand même deux tours et deux équipes à battre en match aller-retour, donc le troisième dans notre championnat français est loin d'être qualifié pour la Champions League. Donc ça, on essaiera un petit peu de rectifier notre enthousiasme dans le prochain championnat, et il sera indispensable on y soit de se qualifier pour l'Europa League avec un autre match aller-retour pour pouvoir être dans une poule, comme ça a été le cas la saison dernière où malheureusement là ils n'ont pas été performants, et pour au moins les récompenser de ce championnat extraordinaire qu'ils ont réalisé la saison dernière, parce que sinon ce championnat extraordinaire avec un parcours au niveau des points qui ressemblait à un parcours de champion, voire dans le pire des cas, de vice-champion. Mais sur le championnat de la saison dernière, ça suffisait pas. Tu termines troisième avec le nombre de points des Niçois qui étaient pas loin de 80 points. Donc là, ça serait quand même dommage de ne pas être récompensé en 15 jours, 3 semaines, là, d'un championnat où tu as terminé troisième derrière deux énormes équipes comme Monaco et Paris Saint-Germain. Ça serait vraiment dommage et pourtant, ça peut être le cas.
Match retour du troisième tour préliminaire de l'Europa League. Cette fois-ci, on a deux affiches. On a Ostende, Marseille et Vidéotron, Bordeaux. Ça sera jeudi à 20h45 pour ce qui concerne Marseille et 19h pour ce qui concerne Bordeaux. Conséquence d'une élimination de l'Olympique de Marseille qu'on n'a pas envie de croire et qui franchement, à laquelle on ne croit pas. Parce que Marseille, c'est imposé 4 buts à 2 à l'aller. Avec la puissance offensive, on se dit quand même que ça devrait passer, quoi.
Mais la conséquence d'une élimination, pour moi, c'est ma position, ça augmenterait les chances pour l'Olympique de Marseille d'être en Champions League la saison d'après, en évitant ces matchs avec un effectif quand même qui est un effectif pour moi réduit, d'une quinzaine de très bons joueurs, mais ça suffit pas pour faire l'Europa League le jeudi et jouer le match le dimanche, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. Ensuite, le match retour, ne pas se qualifier au match retour, alors je t'explique rapidement comment je vois le match retour.
Oui.
Je ne vois pas l'OM ne pas marquer au moins un but.
Oui.
Ça voudrait dire que pour être éliminé, s'il marque ce but, que je pense qu'ils sont très capables, il faudrait en prendre 3, non, sincèrement, je vois l'OM se qualifier en marquant ce but, et je ne vois pas l'OM ne pas marquer au moins un but avec ce potentiel offensif qu'ils ont.
Ouais.
Je ne vois pas l'OM ne pas marquer au moins un but à Ostende. Bon, mais maintenant, on va regarder ce match comme des passionnés que nous sommes.
On va pas le faire avant, évidemment, mais avec le Valère Germain qu'on a eu au match aller, notamment, et son triplé, il y a de quoi être assez optimiste pour l'Olympique de Marseille. Vidéoton Bordeaux, troisième tour, retour préliminaire de l'Europa League. 2-1 pour les Bordelais à l'aller. Face à Vidéoton, face au Hongrois de Vidéoton, mais c'était au Matmut Atlantique. Ça veut dire que là, il va falloir aller non seulement jouer en Hongrie à 19h, mais qu'en plus, Bordeaux, finalement, ils n'ont pas une avance énorme. Là, c'est pas tout à fait la même mayonnaise que Marseille, quand même. Hein.
Ben, je vois la qualification plus compliquée que pour Marseille, mais je la vois quand même. Parce que, je sais pas, mais je vois quand même Bordeaux capable de tenir tête à Vidéoton, même à l'extérieur, et de marquer aussi au moins un but. Alors, je vois Bordeaux capable de se qualifier, mais c'est vrai que 2-1 dans un match aller, dans le règlement qu'on connaît des Coupes d'Europe avec ce but à l'extérieur qui compte double, 2-1, c'est à peine un petit peu mieux qu'un match nul. Hein.
Conséquence d'une élimination, là aussi, rapidement, coach, pour terminer, de Bordeaux.
Même chose pour l'Olympique de Marseille, ça augmentera les chances pour Bordeaux de terminer dans les quatre premiers.
Franchement, tu dis ça avec sérieux ou t'ironises, coach?
Bah, pas du tout.
Bon, d'accord.
Bah, c'est à partir du moment où tu n'as plus à jouer les matchs le jeudi qui te pénalise et que tu sais très bien que tu y laisses des plumes, de la fatigue, des points, des blessures, ça augmentera les chances pour terminer dans les quatre premiers.
Bon, très bien. Je récapitule les matchs européens de la semaine. Donc Ajax, Amsterdam, Nice, ça sera mercredi 20h45 sur RMC. Match retour du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Ostende Olympique de Marseille, jeudi 20h45, toujours sur RMC, troisième tour préliminaire, retour cette fois-ci de l'Europa League, et évidemment Vidéoton Bordeaux, ça sera jeudi à 19h, à vivre également sur RMC à 17h56. On passe là, on te remercie coach, et on te retrouve demain, évidemment.
À demain.
Tu sais que demain c'est peut-être le jour de la signature de Neymar, hein.
Ben oui, écoute, il doit me téléphoner tout à l'heure.
Il te téléphone tout à l'heure. Bon, ouais. tu essayes de lui dire de signer suffisamment tôt, comme ça plein d'informations, plein de choses à dire.
Je l'ai déjà dit dans le dernier coup.
Je te fais confiance. On accueille Jean-François Morel pour l'Intégral Sport. Salut Jeff.
Salut Arnaud, salut coach, tout bon, Roland, c'est Neymar. Voilà, si tu reçois ce genre de coup de fil, tu n'hésites pas, coach, tu nous appelles tout de suite. On va voir au programme ce soir jusqu'à 21h avec Olivier Giroud. Les championnats du monde de natation, on va revenir sur la victoire hier de Camille Lacourse sur le 50 mètres d'eau. On aura de la Formule 1. Également, vous savez, RMC, diffuseur officiel du championnat du monde, et on a une course vraiment passionnante avec trois hommes pour un titre. Les mondiaux d'athlétisme qui vont commencer vendredi, on suivra ça également sur RMC. On aura comme invité aujourd'hui Kevin Ménal, le perchiste, et bien sûr le foot. On vous tient au courant, les dernières infos sur Neymar, et on a même l'idée que Mbappé pourrait arriver au PSG après Neymar. Est-ce possible? On vous attend également au 32-16 et sur le hashtag RMC Live.
RMC Intégral Foot.